confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari.
En proclamant l'Évangile, pour être des missionnaires de l'Évangile.
Des disciples missionnaires.
Pardon?
Sono un figlio di Sant'Agostino.
Je suis un fils de Sant'Agostin. Agostinien.
Che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo.
Il a dit,
in questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria che, il quale, la quale Dio ci ha preparato.
On va marcher tous ensemble vers cette patrie à laquelle Dieu nous a préparé.
Alla Chiesa di Roma, un saluto speciale.
Je salue de façon spéciale l'église de Rome.
C'est l'évêque de Rome.
C'est l'évêque de Rome. Qui salue spécialement. Spécialement l'évêque de Rome. Une chiesa, classique, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti, tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore.
Qui pourrait avoir les bras ouverts vers l'avenir.
E se mi permette, también una parola, un saluto.
Il annonce une autre parole, mais
à mi querida diocesis de Chiclayo en el Perú.
Il est passé en espagnol, donc.
Parce qu'il a été longtemps au Pérou.
Il a été longtemps au Pérou.
Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo.
Ce qu'il a dit là, Monseigneur.
A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo.
Il a salué les évêques et le peuple péruvien.
Sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità.
Une église en marche.
Tu comprends avec ce discours lisse comment il a pu être élu dans une église divisée. Il n'a pas pris beaucoup de risques.
Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
Aujourd'hui, c'est le jour de la Vierge de Pompei.
Très efficace.
Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione, marcher avec nous, être à nos côtés,
nous exprimer
allora
son amour.
Pregare insieme a voi, preghiamo insieme per questa nuova missione.
Je vous demande de prier pour cette nouvelle mission de toute l'Église.
Chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il s'appelle donc Robert Francis Prévost, il est américain et il a choisi le nom de règne Léon XIV, le 260e pape de l'Église catholique, vient de se présenter au monde depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre sous les applaudissements des fidèles venus du monde entier.
RFI Soir,
édition spéciale,
Guillaume Ouattara.
Et on prend évidemment la direction de Rome avec nos correspondants sur place qu'on retrouve pour nous faire vivre ces premiers instants. Alors, et on reviendra dans quelques instants à Rome. Je me tourne vers vous, Geneviève Delru, première prise de parole de ce nouveau pape, premier pape américain. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Un message adressé à la paix, hein. C'est oui. Sous la paix qu'il a placé le signe de son premier discours.
Moi, ce que j'ai retenu, c'est la paix, en effet. Pont aussi. Hein, je pense qu'on a tous retenu ce mot-là, paix. Oui, c'est ça, la paix. Et le pont, le dialogue, voilà. Et puis, si, bien sûr, plus que l'allusion, il remercie le pape François. Donc, c'est un homme qui sera dans la continuité du pape François.
Arnaud Libert.
Oui, alors pour la continuité avec le pape François, je ne me fais aucun souci. C'est un proche du pape François. C'est quelqu'un que le pape François avait nommé responsable du dicastère des évêques. Donc, ce qui est un élément absolument essentiel. Il a un parcours en Amérique latine. Donc, il a été dans les mêmes eaux que le pape François. Il est lui-même issu d'une famille. Donc, on peut quand même le dire que son père est français. Donc, il a aussi
un motif de fierté. Pour nous.
Je ne sais pas si c'est de la fierté. En tout cas, il a une part de lui-même en Europe, comme le pape François, ce qui fait beaucoup d'éléments communs. Moi, ce que je note, c'est que il marche avec deux jambes. La première jambe, elle est imminemment théologique. Je pense que c'est ce qui l'a fait émerger comme figure d'unité. C'est-à-dire qu'il commence tout de suite par le rappel de la résurrection du Christ, donc le temps pascal, etc. Et il finit par une prière à Marie. Donc un élément théologique, sa foi en premier. Et au milieu, au cœur de son texte, la condition humaine, la recherche de la paix, la charité. On a dit aussi l'hommage au pape François, mais voilà. Et de ce qui fait qu'on voit avec cette première prise de parole qu'il a lu, donc en fait c'est aussi quelqu'un qui a pris le temps de c'est pour ça peut-être que ça a été un petit peu long. Il a pris le temps d'écrire son discours pour pouvoir bien le dire. Il a bien pensé. C'est un homme équilibré et je pense que son pontificat va démarrer très vite en fait.
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est il n'a pas l'air vraiment ému, comme si c'était une évidence. Il est là, il endosse la fonction immédiatement. Enfin, je ne sais pas si Arnaud, vous ressentez cela.
Pour François,
il y avait une sorte d'émotion. C'était grave, il avait demandé à la foule de le bénir. Enfin, on sentait qu'il était très impressionné, lui.
Il y a quelque chose de très calme, effectivement, dans la stature. Il va faire le job.
Il va faire le job.
Et c'est ce qu'on va suivre, évidemment. Je vous propose qu'on retourne tout de suite à Rome avec vous, Véronique Guémard, envoyée spéciale de RFI au Vatican. Le discours du nouveau pape, Léon XIV, vient de se terminer et il est acclamé par la foule.
Oui, effectivement, il est acclamé par la foule et on voit parmi les personnes qui sont en train d'intervenir, justement, de lever des drapeaux américains, évidemment, dans la foule. La foule qui a accueilli les paroles du nouveau pape. Donc,
Véronique, on va vous retrouver dans un instant, parce que j'imagine qu'avec le monde que vous avez autour de vous, on a des petites soucis de liaison qu'on va régler, évidemment, mais on part du côté de Washington, où on retrouve Guillaume Nodin, puisque c'est le premier pape américain de l'histoire, et on attendait la réaction de Donald Trump. Guillaume, elle vient d'arriver.
Oui, il l'a posté sur son réseau social personnel, son réseau social Truth Social. Félicitations au cardinal Robert Francis Prévost qui vient d'être nommé pape. C'est un honneur de réaliser qu'il est le premier pape américain. Quelle excitation, quel plaisir et quel grand honneur pour notre pays. Je suis impatient de rencontrer le pape Léon XIV. Ce sera un moment très significatif, a very meaningful moment. C'est ce qu'écrit Donald Trump sur son réseau social. Comme le disait Geneviève Delru et vos invités il y a quelques instants, La réputation, en tout cas, de Robert Francis Prévost n'est pas d'être un ultra-conservateur, on va dire ça comme ça. Il s'est présenté d'ailleurs lui-même, avec quelques mots en espagnol, dans la droite ligne du pape François, qui était un pape qui était proche des migrants notamment, et on peut imaginer que ça ne fait pas forcément plaisir à l'administration Trump d'avoir un nouveau pape qui, même s'il est américain, et évidemment il y a cette fierté nationale qui va être mise en avant par l'administration Trump, que ça ne fait pas forcément plaisir que le nouveau pape soit dans la quasiment la droite ligne de son prédécesseur qu'il a salué au cours de son premier discours. Et pas parce que le pape François s'était clairement opposé à toute la rhétorique anti-migrant de l'administration Trump et du mouvement MAGA. Évidemment, Donald Trump fait part de sa joie, de sa satisfaction et de son plaisir de voir un pape américain élu, mais ça sera quand même très intéressant de voir quelle relation il va pouvoir entretenir avec le pape Léon XIV, qu'il appelle, dont il appelle une rencontre avec lui de ses voeux.
Merci beaucoup Guillaume Nodin, correspondant de RFI à Washington. Un pape donc qui a été élu il y a maintenant un peu plus d'une heure. Il s'appelle Léon XIV. C'est notre nouveau pape Robert Francis Prévost. On va s'habituer à l'appeler Léon, hein, c'est désormais son nouveau nom. On vous fait vivre ça évidemment avec nos invités et nos envoyés spéciaux et correspondants un peu partout dans le monde, puisque c'est un événement mondial et qui a une grande résonance pour les pays d'Afrique. Je vous propose qu'on prenne la direction de la Côte d'Ivoire. On retrouve Benoît Almeiras. Bonsoir Benoît, en direct d'Abidjan. Quelles sont les premières réactions à Abidjan ?
Eh bien, il y a un peu de surprise, hein, comme je suppose à Paris, dans le studio. Mais la première impression, c'est qu'il faudra d'abord apprendre à connaître, hein, ce pape Léon XIV, hein, l'Américain Robert Francis Prévost. Le cardinal ivoirien Ignace Bessi Dogbo l'avait rappelé la semaine dernière. L'origine ou la couleur de peau du pape importe peu, hein, selon ses mots. Il faut regarder son amour pour ses frères dans la diversité et dans le respect de tous. Et c'est même un pape pour toute l'humanité, résume l'archevêque de Bouaké, Jacques Assenvo Aïwa. Certains des catholiques d'Abidjan auxquels j'ai parlé espéraient un pape originaire d'Afrique, hein, tout de même, parce que les prêtres du continent sont envoyés en Europe, parce que le nombre de catholiques augmente ici. En Côte d'Ivoire, hein, on parle de près de 5 millions de croyants, un Ivoirien sur 6.
Et est-ce qu'il y a des attentes particulières par rapport à ce nouveau pape, Benoît Almeiras ?
Et la préoccupation majeure, hein, c'est que le pape soit dans la continuité du dialogue interreligieux poursuivi par le pape François. Deux Ivoiriens sur 5 sont musulmans, et pour les catholiques ivoiriens, il faut aussi plaider pour la paix sur le continent, en RDC, au Burkina, au Mali, en plus des conflits en cours dans le monde, en Ukraine et au Proche-Orient. Une autre préoccupation, c'est l'influence des évangéliques, hein, comme l'a dit le cardinal Ignace Bessi Dogbo auparavant. L'Église catholique n'est plus seul sur le terrain. Plus de la moitié des chrétiens ivoiriens fréquentent un culte évangélique, parfois jugé plus dynamique, plus accessible. Et pour le président du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, il faut moderniser l'image d'une église qui paraît vieux jeu pour qu'elle soit plus proche de la culture ivoirienne des pratiquants, plus présente aussi sur les réseaux sociaux. Et ça, même si l'église catholique ne fait pas dans le bling-bling, d'après ce que m'a dit un prêtre d'ici.
Merci beaucoup Benoît Almeiras, correspondant de RFI à Abidjan. Donc, vous suivez cette édition spéciale, évidemment consacrée à l'élection de ce nouveau pape Léon XIV, un pape américain qui suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions aux États-Unis, où on vous retrouve à nouveau, Guillaume Nodin. Vous êtes notre correspondant à Washington, des réactions qui continuent à affluer.
Oui, il y en a quelques-unes effectivement, mais ce que je voudrais attirer votre attention, je suis actuellement là, et vous pouvez y aller vous-même d'ailleurs, sur le compte X de Robert Prévost, son ancien nom, où il, on peut lire ses toutes dernières publications, et elles ne sont pas forcément à l'avantage de l'actuelle administration américaine. Je vois notamment un message du 3 février 2025, donc quand le nouveau pape Léon XIV s'appelait encore Robert Francis Prévost et qu'il était cardinal, et il le dit très clairement, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, donc, a tort, Jésus ne nous demande pas de donner un ordre dans notre amour pour les autres. Et il y a d'autres publications où il explique que l'Évangile et l'Église ne sont clairement pas d'accord avec la politique de l'administration Trump et notamment avec J.D. Vance sur l'immigration. Et son tout dernier tweet, c'est un retweet, si je puis m'exprimer ainsi, puisque le réseau a changé de nom, qui date du 14 avril 2025 et qui est un message qui critique vivement l'attitude de Donald Trump et de l'administration américaine au moment de recevoir le président salvadorien Nayib Bukele au bureau ovale sur les questions d'immigration. Donc c'est vraiment, vraiment un point important pour ce nouveau pape Léon XIV de défendre les migrants, les droits des migrants, les droits des plus faibles en fait. Et en cela... quand il était cardinal, je ne sais pas ce que ça donnera quand il sera pape, mais en cela, il s'oppose clairement à la politique d'immigration de l'administration Trump.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Made in Washington, Guillaume Nodin, correspondant aux États-Unis de RFI. Ça vous fait réagir, Arnaud Alibert. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Croix. Ça ne va pas être des relations très faciles avec Donald Trump. En tout cas, ça donne un certain éclairage sur la vision de ce nouveau pape Léon.
Ah oui, c'est à peu près certain. Alors, sauf que après la fonction oblige de nouvelles relations, mais sans vouloir faire remonter à la surface en ce jour de nomination une polémique mais ancienne. Mais il faut quand même dire que le débat était très tendu entre l'administration américaine actuelle et le Vatican, et que le cardinal Prévost, aujourd'hui pape Léon XIV, a été un des vecteurs de la polémique, puisque en quelques mots, l'administration Trump qui est travaillé par des courants très conservateurs, a cru bon de se réapproprier un concept théologique ancien, qui est celui de l'ordre, d'un amour correctement ordonné. Ce qui est un élément tout à fait traditionnel, mais au lieu de l'appliquer à ce que la pensée habituel l'applique, c'est-à-dire aimer en premier et ensuite organiser la vie humaine et toutes les aspirations humaines autour de l'amour. Les tenants de l'administration de Trump, et en particulier J.D. Vance, le vice-président, ont en fait atrophié le concept et ont appliqué cet ordonnancement de l'amour à l'intérieur de l'amour, en disant il y a des amours qui sont plus importants que d'autres. Ce qui transforme complètement la chose. Et donc, ils en ont tiré la conclusion qu'on pouvait aimer plus son prochain que son lointain, et donc plus un États-Unien qu'un migrant mexicain.
C'est pas du tout dans la doctrine.
C'est à l'opposé absolu et de la doctrine, et même, je crois pouvoir le dire, de l'Évangile, quand on le lit avec des yeux sans idéologie, normalement, comme des millions et des milliards de gens le lisent. Donc, ça a été une polémique extrêmement vive, et là, je crois qu'à un moment donné, les choses vont être posées sur la table, oui, ça, je pense.
Ça va faire partie, Pierre Diarra, je rappelle que vous êtes théologien, anthropologue, des grandes questions sur lesquelles on va scruter ce nouveau pape Léon XIV, à ces questions migratoires, puisque le pape François avait incarné une vision qu'on peut qualifier de progressiste, dans la lignée de la théologie, en faveur de l'accueil, en faveur de la défense des plus démunis. On va regarder les prises de position à ce sujet du nouveau pape.
Oui, alors... J'ai cru comprendre en écoutant justement le premier discours de Léon XIV qu'il était question du disciple missionnaire, qu'il était même question de construire des ponts.
C'est ce qu'il a dit.
Et qu'il était, bien sûr, dans la mouvance du pape François, donc le dialogue, et aussi avec peut-être son origine spirituelle, Saint-Augustin, l'amour. L'amour qui est vraiment au cœur de la préoccupation, et vous avez raison de souligner que l'amour, c'est un des lieux justement où la théologie est, j'ai presque envie de dire, sans équivoque, il faut aller le plus loin possible pour aider l'autre et ne pas se contenter, disons, de tourner autour du pot et de ne pas aider vraiment l'autre. Et cette préoccupation, je pense, risque d'avoir donc des conséquences, en tout cas par rapport à l'administration américaine. Peut-être qu'il ne va pas tout de suite manifester clairement son opposition, mais à mon avis, il ne va pas tarder à le signifier clairement que l'administration américaine n'est pas dans la bonne interprétation de la théologie de l'amour et de la théologie des relations que chaque chrétien doit entretenir avec l'autre, notamment les pauvres, les petits, ceux qui sont dans la difficulté.
17h49 en temps universel, vous êtes sur RFI et je vous rappelle évidemment cette information. Le monde catholique a un nouveau pape, Léon XIV, c'est le cardinal Robert Francis Prévost, cardinal américain qui a été élu par ses pairs. Il a 69 ans, c'est un pape relativement jeune et ces derniers jours, évidemment, c'était les spéculations autour de ce qu'on appelle les papabilis, ceux qui sont possiblement papes. Alors son nom ne circulait pas trop, mais il y avait un nom qui ressortait beaucoup, c'était celui de Pierre-Baptiste Tapidabala, le cardinal papabile venu de Jérusalem. Et justement, on va retrouver Michel Paul à Jérusalem. Bonsoir Michel, j'imagine qu'il y a de la ferveur du côté des catholiques pour cette annonce, mais une ferveur teintée d'une pointe de déception de ne pas avoir vu apparaître sur la loggia Pizzaballa.
Oui, certainement, il y a une résonance particulière du message de paix qui a été lancé par le pape Léon. Et donc, vous l'avez dit, une pointe de déception. On espérait beaucoup ici à Jérusalem la nomination du cardinal Pizzaballa, qui est un homme extrêmement charismatique, qui est plus jeune, il a 60 ans. Mais du côté israélien même, on espérait que ce soit le premier pape hébraïsant. Et effectivement, il parle parfaitement l'hébreu. Et donc, il y a cette pointe de déception. Alors, on espère maintenant ici, en tout cas, il n'y a pas de réaction officielle encore côté israélien, en tout cas. Mais on espère que les relations avec le Vatican vont s'améliorer. Elles s'étaient détériorées particulièrement après le 7 octobre 2023. Certains experts et responsables israéliens avaient exprimé une déception face aux prises de position du pape François après l'attaque du Hamas le 7 octobre et la guerre à Gaza qui a suivi. Ils ont perçu un manque de condamnation explicite du Hamas et une critique jugée excessive des actions israéliennes, certains allant même jusqu'à parler d'un goût amer laissé par son pontificat sur cette question, notamment les critiques donc des opérations militaires, l'accusation de deux poids, deux mesures qui avait été lancée par le ministère des Affaires étrangères à l'égard du pape François, l'allusion au terme de génocide qui avait été utilisé par le pape François, et également, on l'avait vu après le décès du pape, le silence relatif du gouvernement israélien. Donc on espère que les choses vont s'améliorer et le message de paix qui a été lancé ce soir a été reçu parfaitement ici à Jérusalem.
Merci beaucoup Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem. Je vous propose un rapide tour d'horizon des réactions à l'international. D'abord Donald Trump qui adresse ce jeudi ses félicitations à Léon XIV, le premier pape originaire des États-Unis. Une excitation et un grand honneur pour le pays. Les félicitations viennent aussi d'Allemagne, Friedrich Merz qui félicite le pape Léon, qui donne espoir et orientation à des millions de croyants. Et puis la Pologne se dit prête à renforcer les liens uniques avec l'Église catholique sous le pape Léon XIV. C'est la déclaration du président Duda. Voilà, une résonance assez internationale. Geneviève Delrue, je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des religions. Les auditeurs vous connaissent bien, vous avez été pendant longtemps notre spécialiste maison. C'est quoi la place d'un pape, justement, dans cet échiquier international, puisqu'on voit les réactions qui se multiplient partout dans le monde, puisqu'on voit déjà cet espoir de paix qu'il lance? Comment vous définiriez son rôle?
Un pape, c'est un rassembleur. Et le pape, en fait, bien sûr, il s'adresse aux milliards quatre de chrétiens, de catholiques, pardon, dans le monde. Mais en fait, pourquoi cette élection est tant suivie à l'international? C'est parce qu'un pape, c'est aussi une conscience. C'est une conscience morale. Je ne dirais pas que c'est un lanceur d'alerte, mais c'est une conscience morale. Et un pape donne une vision, une direction générale qui concerne tout le monde. En fait, ça concerne les grands de ce monde. Bien évidemment, ils sont là pour effectivement conduire l'humanité. Et le pape en fait partie.
Et il prend la parole, le pape, souvent par rapport au conflit, par rapport à la situation du monde. Arnaud Alibert, il donne des orientations, il donne la vision du monde catholique sur ce qu'il se passe dans le monde entier.
Oui, je pense que ça sera d'une certaine manière un porte-voix de la pensée de l'Église assez solide, même très solide. Si on devait se dire, parce qu'on est entré tout de suite dans la polémique, mais les trois enseignements que je retiens tout de suite, c'est un, il a été très vite élu. en 24-26 heures, selon qu'on calcule par rapport à la fermeture des portes ou le début. Des...
En tout cas, 4 tours.
En 4 tours, en 24 heures. Bon. Ce qui veut dire que, en fait, ceux qui disaient, il y avait des cardinaux qui, avant de rentrer dans le conclave, disaient le conclave sera court. C'est-à-dire que son nom avait sans doute émergé récemment comme une figure possible. Donc, c'est un rassembleur de l'Église. Premier point. Deuxième point, il est religieux. Donc, de nouveau, on va dire, l'Église catholique tente l'expérience religieuse. Après un pape jésuite, on a un pape Augustin. Alors, c'est pas pour me déplaire parce que moi-même, je suis de cette grande famille des religieux d'Augustin, mais je pense qu'on va redécouvrir l'héritage de saint Augustin qui... qui a vécu dans un monde, il faut bien avoir cela en tête, le monde de Saint-Augustin, c'est un monde païen, c'est un monde non chrétien, un monde où un empire s'effondre et où la foi apparaît comme le roc sur lequel se raccrocher. Donc il y a beaucoup de résonance. Dernier point, c'est un homme qui est un héritier de François. Il a remercié François plusieurs fois. Théologiquement, il est très proche de lui. Il a dit avec ses mots à lui, mais c'est la même veine théologique que François. L'Église ne peut pas être elle-même si elle n'est pas missionnaire, d'une part, et deuxièmement, auprès de ceux qui souffrent. Donc, je pense, les caractéristiques les plus essentielles de Léon XIV.
On va prendre tout de suite la direction de Rome, où on retrouve notre envoyé spécial, Nicolas Rocca. Bonsoir, Nicolas. On a vu la place Saint-Pierre, noire de monde, des scènes de liesse et de prière.
Oui, on a vraiment eu la sensation que d'un coup, tout Rome a commencé à affluer vers la place Saint-Pierre au moment où la fumée blanche est apparue. Il y avait des gens extrêmement émus. Vraiment, la foule était très impressionnante. C'était un long moment d'euphorie, puis une attente. C'était également des scènes certaines de chaos avec des gens qui se sentaient assez mal. Et puis finalement, le nouveau pape est apparu. Un discours de paix qui a été extrêmement bien accueilli. Autour de moi, il y avait des Américains, des Américaines qui se disaient d'abord étonné de voir un pape américain, il ne le connaissait pas forcément, et puis des Péruviens qui ont évidemment salué le moment où il a pris la parole pour parler du Pérou, où il a passé une grande partie de sa vie. Puis le peuple, la foule a acclamé Léon, 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 un moment de prière, un moment très solennel, avec de l'émotion qu'on pouvait voir dans les yeux de beaucoup de personnes. Ce qui est revenu, c'est cette importance du discours de paix et les fidèles qui étaient présents. Ça a résonné extrêmement fort aussi, l'idée que c'était une continuité avec le pape François. Donc c'était un moment extrêmement émouvant qui s'est déroulé sur la place Saint-Pierre où la foule était très, très impressionnante.
Merci beaucoup, Nicolas Rocca, envoyé spécial de RFI à Rome. Merci de nous faire vivre, évidemment, ce moment historique pour 1,4 milliard de catholiques à travers le monde entier, mais historique parce que le pape a une portée extrêmement symbolique au-delà du monde religieux. Preuve en est ces nouvelles réactions qui arrivent du monde entier. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, espère que le nouveau pape soutiendra moralement l'Ukraine. Voilà ce qu'il vient de dire. Ursula von der Leyen de la Commission européenne, le nouveau pape inspire le monde par son engagement pour la paix. Pierre Diarra, je rappelle que vous êtes théologien. Quelles vont être, selon vous, les priorités de ce nouveau pape ?
Alors, il y a deux choses qui m'ont frappé dans le discours, si j'ai bien entendu, parce que ce n'était pas toujours facile à... Il a dit, mais ça, je pense que c'est parce que nous sommes dans le temps pascal, le mal ne peut pas gagner. Le mal ne peut pas gagner. Et puis, dans la communion qu'il va célébrer et qu'il va promouvoir, il est sous-entendu, j'ai cru comprendre, que la cité de Dieu, et en lien avec saint Augustin, est là, et donc c'est ensemble que nous marchons vers la cité de Dieu, que nous allons travailler pour la paix et pour l'amour, et donc il y a cette dimension communautaire du peuple de Dieu en marche, et qui est orientée donc vers la cité de Dieu, et qui fait que finalement, dans cette mouvance de Pâques, nous sommes vraiment au cœur de la célébration du salut chrétien, et qui ne se limite pas aux chrétiens, et qui est ouvert à l'ensemble du monde. Et qui peut être confronté à différentes sortes de maux, à différentes difficultés de vivre ensemble. Et donc, c'est ensemble que nous sommes appelés à construire avec d'autres ces